Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, où que vous soyez à travers le monde. RFI vous donne la parole durant les 20 prochaines minutes pour commenter l'actualité de votre choix. C'est la libre antenne, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont interpellé cette semaine. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de nous sensibiliser à des sujets dont on n'a pas suffisamment parlé selon vous. Un seul numéro de téléphone pour nous contacter, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70. Si vous êtes en France, et vous continuez évidemment à réagir à l'actualité sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Plusieurs d'entre vous nous ont appelés pour réagir à l'attentat de mardi à Tunis, troisième attentat d'envergure revendiqué par l'organisation de l'État islamique depuis le début de l'année. Il y a eu, rappelez-vous, l'attentat du musée du Bardo au mois de mars, l'attentat sur cette plage de Sousse en juin, et puis mardi, donc cet attentat au plein cœur de Tunis. Fatih, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes tunisien, vous nous appelez d'Amsterdam. Choqué évidemment comme tous les Tunisiens, mais vous, vous pointez du doigt les failles, des failles dans la sécurité.
C'est terrible, c'est incroyable ce qui s'est passé. Mettons que c'est une série noire qui ne s'arrête pas du tout. Vous avez déjà mentionné le Bardo et l'hôtel de Sousse, mais avant ça, il y a eu d'autres attentats. On a tué un parlementaire, on a tué un leader politique et on a même attaqué une fois en 2014 la maison, la propre maison du ministre de l'Intérieur, Benjeddou, et ça continue. Ouais. Et ce qui m'inquiète quand même beaucoup, et je me pose là beaucoup de questions, c'est que le président, c'est quelqu'un qui a passé 15 ans à la tête des services de sécurité tunisiens sous Bourguiba. Il a été pendant une dizaine d'années ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Défense, il a été le directeur de la Sécurité nationale. Son premier ministre, monsieur Habib Essid, c'est quelqu'un aussi qui vient de l'ancien régime, qui a été aussi ministre de l'Intérieur en 2011, et le secrétaire d'État du ministre de l'Intérieur, monsieur Chelli, oui, a été pendant de longues années le chargé de la sécurité présidentielle, c'était lui qui assurait la sécurité du palais présidentiel.
Ouais, donc vous ne comprenez pas que toutes ces personnes qui sont quand même des professionnels du renseignement n'aient pas pris les bonnes mesures pour éviter que de nouveaux attentats puissent avoir lieu en Tunisie. Il y a eu des mesures qui ont été prises dès mardi soir, l'état d'urgence par exemple, le couvre-feu nocturne imposé dans le Grand Tunis, le pays qui décide de fermer provisoirement sa frontière avec la Libye. Ce sont des mesures insuffisantes, inappropriées selon vous?
Écoutez, on ne sert pas la moutarde une fois que le repas est fini. Hein. Il aurait mieux valu prendre d'autres mesures d'avance, et je ne sais pas les services de renseignement tunisiens comment ils fonctionnent. C'est que quand même on sait que le pays est troublé, qu'on a des voisins, les Libyens je veux dire, où il y a une guerre civile qui sévit, qu'il n'y a pas de sécurité, et en Tunisie, par exemple, les groupes là qui sont susceptibles de commettre des attentats, ils ont été ciblés du temps de Bourguiba, de Ben Ali et tout ça. La police politique tunisienne n'a pas chômé sous le régime précédent.
Alors ne raccrochez pas Fatih. Je disais tout à l'heure que cette actualité a suscité plusieurs appels au standard. Je voudrais qu'on accueille Nabil qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Nabil.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Écoutez, moi je pense que le problème n'est pas situé au niveau des failles de la sécurité, que ce soit à Tunis, à Beyrouth, à Paris ou à Damas. Je pense que le problème est à situer au niveau de l'idéologie de ces djihadistes. On ne peut rien faire contre des gens à qui on a inculqué la notion de la mort pour arriver au paradis. Et cette notion, elle vient d'une idéologie. Cette idéologie est développée et financée par les États du Golfe, et il convient d'appeler un chat un chat. N'est-ce pas ? l'idéologie qui se développe en Libye, en Syrie, en Irak, elle est importée de l'extérieur, elle n'appartient pas à ces pays. Il convient d'attaquer le problème à la racine du mal.
Ouais.
Je ne pense pas que toutes les mesures de sécurité du monde ne pourront pas empêcher quelqu'un de venir se faire sauter dans la foule, parmi la foule, sur un marché, dans un bar, dans un autobus. Il faut arrêter de penser de ce côté.
Alors Fatih qui vous écoute et qui est Tunisien, il nous appelle des Pays-Bas. Fatih, vous, comment vous expliquez la radicalisation des jeunes Tunisiens? Il y en a de plus en plus. La Tunisie compte, je crois, plusieurs milliers de djihadistes potentiels. 3000 d'entre eux sont en ce moment même aux côtés de l'organisation de l'État islamique en Syrie. Comment vous expliquez l'ampleur de ce phénomène, Fatih?
Vous savez, sous le régime précédent, la police avait fiché tous ces gens-là. Il y avait beaucoup qui étaient à l'étranger. Et je ne veux pas du tout contredire mon ami, là, que je connais pas, qui
Nabil.
Vous appelez David Jean, là. Oui. Mais ce que je voudrais pointer quand même un peu du doigt, il a parlé d'attentats terroristes dans les marchés. C'est ça ce qui s'est passé en Irak, où il y a un terrorisme aveugle. Mais en ce qui concerne le terrorisme tunisien, il est bien ciblé. Il n'a rien à voir avec le terrorisme d'aller se faire sauter dans un marché et de tuer des gens.
Oui, enfin, il est bien ciblé au Bardo et à Sousse. Il ciblait les touristes. On voyait bien qu'il y avait une volonté de s'en prendre aux Occidentaux qui passent leurs vacances en Tunisie, une volonté de mettre à plat l'économie, puisque le tourisme est l'élément clé pour faire fonctionner l'économie tunisienne. L'attentat de mardi visait plutôt un bus de la sécurité présidentielle.
C'est un symbole. C'est comme l'attentat du Bardo, le musée du Bardo côtoyait, ou bien côtoie encore, l'Assemblée nationale, le Parlement tunisien. Et la maison du ministre de l'Intérieur qui a été visée, où il y a eu 4 policiers qui ont été tués,
oui.
C'est aussi un symbole. Ce ne sont pas des attentats terroristes aveugles.
Ouais. Le temps passe très vite, Fatih, je suis désolé, le temps passe très très vite. Nabil, un petit mot de conclusion et ensuite on accueillera d'autres auditeurs sur d'autres sujets d'actualité. Nabil.
Quand on tue un berger isolé dans la montagne tunisienne, ce n'est pas un symbole. Je suis désolé, on est en train de tuer, on veut tuer pour tuer. Il s'agit de combattre l'État islamique fermement là où il se trouve, en Libye, en Syrie et en Irak, et couper les sources d'approvisionnement et l'idéologie wahhabite. Qui est derrière.
Merci à tous les deux, Nabil d'Abidjan, Fatih d'Amsterdam, c'est la libre antenne, 33 9 693 693 70. Vous nous appelez de Bamako pour nous parler de la situation sécuritaire au Mali, après l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blue il y a tout juste une semaine dans la capitale malienne. Bonjour Patrice.
Bonjour Anne, bonjour RFI.
Vous souhaitiez nous parler sur les mesures de sécurité prises depuis vendredi dernier, et vous dites qu'elles sont insuffisantes.
Oui, Juan, laissez-moi d'abord m'incliner vers la mémoire de tous ceux qui sont partis, nos compatriotes qui sont décédés, que Dieu soit avec eux. Et tout à l'heure, j'intervenais en disant que je pense pas que les mesures qui ont été prises soient des mesures assez efficaces, parce qu'elles ne sont pas seulement dissuasives. Parce qu'au regard de tout ce qui se passe, nous pensons que on devrait avoir de grands éléments, de grands événements, de grands changements dans la ne serait-ce que pour voir ce qui se passe à Bamako. Regardez, Juan, depuis que c'est arrivé cet attentat, nous on n'a pas compris que nos postes ne soient pas sécurisés, qu'on n'ait pas vu comme en France une action menée par Vigipirate, qu'on ne voit pas les militaires sécuriser des postes, des grandes artères. On ne les voit pas, mais quand on nous dit que nous sommes en sécurité, on se demande c'est quelle sécurité.
Alors vous ne voyez pas peut-être le dispositif sécuritaire, les autorités affirment qu'un millier d'hommes sont mobilisés en ce moment dans la capitale.
Ah ouais, ils sont mobilisés, ils sont où, Anne Gomez? Moi je me demande, ils sont où, parce que moi je me promène jusqu'à 1h du matin, on voit des postes de police dans des carrefours. La journée, on voit 8, 9 policiers dans un carrefour, mais la nuit, on voit pratiquement rien. Les patrouilles qui circulent, ce sont des patrouilles d'ordinaire. Moi, je suis dans des quartiers genre Mayambougou, Banarabougou, Faladjé. On voit les mêmes patrouilles qui sont là pour inquiéter les gens qui roulent à moto, qui circulent à moto. Même quand ils vous arrêtent, ils vous demandent juste de voir vos vignettes. Vous avez la visite technique, vous avez tout. Et c'est ça, c'est les mesures de sécurité. Et ça, c'est habituel. Il n'y avait pas de changement. C'est pourquoi on s'est dit, mais à quoi servent ces gens qui sont partis, qui passent la journée, la nuit à racketter, excusez-moi de le dire, hein, à ne faire que racketter les gens.
Alors, vous êtes très critique à l'égard des forces de l'ordre et des services de sécurité. Issiaka nous rejoint, il nous appelle également de Bamako. Bonjour Issiaka.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Est-ce que votre diagnostic est identique à celui de Patrice? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que les mesures de sécurité prises ne sont pas à la hauteur de la situation?
Pas du tout. Je présente d'abord mes condoléances à tous ceux qui sont, à la famille de tous ceux qui ont disparu. Et ben moi, je m'interroge beaucoup à savoir est-ce que Patrice se trouve réellement à Bamako, parce que moi, je me suis promené dans la nuit et tous ceux qui sont à Bamako qui nous écoutent en ce moment même savent que c'est vrai. Les mesures de sécurité ont été véritablement renforcées. Je ne parle pas de ce qui est avant l'attaque de Radisson, mais depuis qu'il y a eu l'attaque à Radisson, il est perceptible aujourd'hui qu'à Bamako, à partir de 22h30, on ne peut pas se promener sans se faire intensivement. Je vous rappelle, depuis qu'il y a eu cette attaque, dans un rayon de 5 km, vous pouvez être fouillé jusqu'à 10 fois par les forces de sécurité. On vous demande votre pièce d'identité, on regarde la photo, est-ce qu'il s'agit bien de vous? Et puis on vous demande les pièces de votre engin, vous l'avez, et encore on vous demande ce que vous avez avec, par exemple moi, quand je me promène...
C'est-à-dire que excusez-moi, depuis vendredi dernier, vous avez été plusieurs fois fouillé, interpellé par la police, on a vérifié votre identité?
Justement, on a vérifié mon identité et quand j'étais sur ma moto à 23h encore et on m'a demandé ce que j'avais comme pièce, j'ai montré mes pièces et j'ai vu des policiers maliens qui disent non, est-ce que vous êtes dérangé? Je dis non, pas du tout, il faut renforcer ces mesures. Moi, je suis d'accord, il faut fuir. Ils m'ont demandé également ce que j'avais. J'avais un petit sac noir avec moi. Ils m'ont demandé de l'ouvrir, je l'ai ouvert, il n'y avait qu'un ordinateur. Et je vous dis, les mesures de sécurité aujourd'hui à Bamako sont renforcées et n'importe qui ne peut pas se promener comme il veut.
En tout cas, l'état d'urgence est entré en vigueur dès vendredi soir sur l'ensemble du territoire malien pour une durée de 10 jours. Un mot rapidement tous les deux, Patrice et Issiaka, sur l'enquête. L'enquête nous dit-on, elle avance. 2 suspects liés à cette affaire ont été arrêtés à Bamako. Vous êtes rassuré ou pas, Patrice?
Pour répondre à Issiaka rapidement, pour dire que je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas, c'était pas renforcé, mais j'étais pas perceptif, j'ai pas dit, c'était pas dissuasif. C'est là, moi, ma préoccupation, elle doit être dissuasive. Maintenant, par rapport à l'enquête, je suis d'accord que ça avance et nous sommes d'accord que le Malien même doit participer et participe effectivement à cette enquête. Parce que quand on nous dit que l'État fait des efforts et on commence à voir des suspects, je suis parfaitement d'accord parce que dans nos communautés, la population commence à participer en dénonçant. Je prends le cas des Mayambougou. Les gars qui s'est explosé à Mayambougou, c'était la population qui a identifié et qui est partie donner l'information. Moi, je pense que sur ce plan-là, ça avance.
Il faut donc travailler dans le sens du renseignement. C'est ce que disait au micro d'RFI en début de semaine Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Il disait, en substance, la population doit collaborer, travailler avec les forces de l'ordre, aider justement les forces de l'ordre dès que quelqu'un de suspect apparaît dans leur champ de vision. Merci à tous les deux, Patrice et Issiaka. Merci de nous avoir appelés de Bamako. Félicien, vous êtes à Bangui. Bonjour.
Bonjour.
Le pape François est attendu dimanche dans la capitale centrafricaine et vous êtes impatient.
Oui, on est impatient. On est impatient parce que l'arrivée du pape François est vraiment, vraiment attendue chez nous. Tout le monde l'attend avec beaucoup de joie. D'abord, de ma part, je dis merci parce que l'arrivée du pape est comme un symbole de la paix en Centrafrique.
Qu'attendez-vous exactement? Qu'attendez-vous du pape? Est-ce qu'on n'attend pas trop du pape, justement? Certains disent, oui, mais il va pouvoir, d'une certaine façon, contribuer à réconcilier les Centrafricains. Il tiendra un discours de paix, certes, mais dans les faits, est-ce que ça changera quelque chose?
Oui, ce que notre pays, la République centrafricaine, attend du pape, c'est un message de paix. Et nous attendons, parce qu'il y a de cela longtemps, que le pays est déchiré par la guerre, par-ci, par-là. Donc tout ce qu'on attend, c'est un message de paix, et surtout un message qui pourrait édifier nos politiques à revoir leur position et avoir l'intérêt général de la nation avant de voir leurs propres intérêts.
Oui, on verra si la classe politique écoutera attentivement le discours du pape François, donc attendu dimanche, malgré la situation sécuritaire particulièrement instable en Centrafrique. Le Burundi, là aussi, nous avons reçu des appels, des témoignages, notamment celui de Cédric, qui nous appelle de Bujumbura, la capitale. Bonjour Cédric.
Bonjour Juan, bonjour à tout le monde.
Les violences se poursuivent dans votre pays, des violences qui inquiètent la communauté internationale, qui n'hésite plus à dire « nous craignons des violences à grande échelle » et vous nous avez appelé pour nous dire que vous vivez quotidiennement dans la peur.
Absolument, monsieur Juan, nous vivons quotidiennement dans la peur, surtout depuis le mois d'avril, lorsque le président Nkurunziza a voulu passer en force, malgré que la Constitution de lui interdisait. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale au sujet de ce qu'il a fait maintenant, mais actuellement, on sent que la situation serait délaissée à nous. On voudrait que la communauté internationale agisse plus qu'elle a déjà fait, afin qu'elle puisse mettre une fin à cette crise qui semble...
Mais quand vous dites que la communauté internationale doit agir, ça signifie quoi? Que les sanctions adoptées, par exemple, par l'Union européenne, par les États-Unis, sont insuffisantes? Ce sont des sanctions ciblées contre des responsables de violence proches du pouvoir. C'est insuffisant, selon vous?
Oui, après les sanctions qui ont été prises contre certaines personnalités du régime du président Nkurunziza, on semble que ces sanctions ne signifient pas grand-chose. Au pouvoir de Bujumbura, il fallait que la communauté internationale pense à autre chose.
C'est-à-dire, quand vous dites autre chose, vous attendez quoi exactement, Cédric, vous qui êtes sur place?
Il fallait passer par d'autres moyens.
Lesquels? Cédric, concrètement, qu'attendez-vous de la communauté internationale?
Des moyens militaires, parce que actuellement.
Vous m'entendez, Cédric? Cédric.
Oui, je vous entends.
Oui, je vous ai posé deux, trois fois la même question. C'est qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale quand vous dites elle doit aller plus loin? Ça signifie quoi?
Actuellement, les vies humaines sont en train d'être fauchées. Il fallait que la communauté internationale mette à l'écart le gouvernement du Burundi. Comme ça, on pourra mettre fin à cette crise qui semble devenir insupportable pour les Burundais et la communauté internationale.
Donc des mesures radicales, vous demandez. On va voir si Richard, qui est Burundais, nous appelle de Bruxelles, partage la même analyse. Bonjour Richard.
Bonjour Juan, je salue aussi les auditeurs burundais de Bujumbura.
Quelles mesures doit prendre la communauté internationale pour mettre fin aux violences qui déchirent ce pays depuis maintenant 7-8 mois?
La première mesure et la plus urgente qu'il faut faire, qu'il faut prendre, c'est de mettre les belligérants sur une table de négociation. Il faut que les négociations entre les belligérants en guerre actuellement à Bujumbura, parce qu'il faut bien le préciser maintenant, les gens oublient de le dire, le Burundi est en guerre depuis au moins un mois. Il y a toujours des cadavres le matin, il y a des affrontements entre une rébellion dans les collines sur les positions des policiers et militaires, il y a une guérilla urbaine qui est organisée, qui attaque des policiers et des policiers qui attaquent également les membres de cette guérilla. Donc, pour l'instant, nous sommes en train d'entrer dans une phase de négociation qui va se dérouler à Kampala et il faudrait que la communauté internationale s'implique et sache et puisse sérieusement mettre les vrais belligérants autour de la table.
Le problème, c'est que le pouvoir dit nous voulons négocier, mais pas question de négocier avec ceux qui sont à l'origine du mouvement de contestation contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Donc c'est compliqué de réunir tout le monde autour de la table. On aura l'occasion, évidemment, de revenir sur la situation au Burundi dans les prochains jours. Merci à vous tous de votre fidélité. Sachez que lundi, nous serons en direct du Bourget. Lundi, jour important, puisque ce sera l'ouverture de la COP21, la conférence climat des Nations Unies, on vous en parle depuis des mois et des mois. Eh bien, pour l'occasion, nous serons sur place et nous vous donnerons la parole pour une émission spéciale. Autour de moi, il y aura bien évidemment plusieurs invités et nous répondrons à toutes vos questions sur les négociations, l'engagement des États-Unis et de la Chine, qui sont les principaux pollueurs, les défis qui attendent l'Afrique, vos questions également sur le réchauffement climatique et sur ses conséquences. Vous nous appelez dès maintenant, vous pouvez vous inscrire 33 9 693 693 70. Vincent Souriau me rejoint à l'instant. Bonjour Vincent.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous allez dans un instant prendre l'antenne d'RFI pour une édition spéciale à l'occasion de cet hommage solennel qui sera rendu dans la prochaine demi-heure.